Vous êtes toujours à l'écoute de RESF sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, et rfpp.net pour nous suivre en streaming partout dans le monde. Là, on vient d'écouter Farhad Dariat, c'est un musicien afghan, mais qui a quitté l'Afghanistan depuis un certain temps. Et donc, une très jolie chanson, enfin, que moi j'aime bien, qui s'appelle Salam Alek, Salam Alekoum. Et donc, nous sommes toujours avec Violaine Carrère, et on va parler donc du non-accueil des mineurs isolés étrangers. Et il y a actuellement une sorte de mouvement, enfin, qui se passe devant un lieu qui s'appelle la PAOMI, hein, la permanence d'accueil et d'orientation des mineurs isolés étrangers. Et une des choses qui est intéressante dans ce qui se passe actuellement, c'est que, enfin, pour moi en tout cas, c'est la nouveauté, c'est qu'il y a des gens qu'on ne voyait pas dans ce type de mouvement et qui apparaissent maintenant. Notamment le 115 du particulier. Alors je propose qu'on écoute quelqu'un qui s'appelle Bran et qui va nous appeler tout à l'heure, hein, qui est donc justement du 115 du particulier et que j'ai enregistré dimanche dernier. C'était devant le rassemblement à la PAOMI, puisqu'il y a des rassemblements tous les jours et au moins tous les dimanches. Donc tout de suite on écoute Bran, c'était dimanche dernier.
Pour nous, association 115 du particulier, ben, ces gamins font partie du paysage SDF. Donc, ce qui veut dire que chez nous, c'est vachement important qu'un individu sur cette terre puisse disposer d'un toit et au moins un minimum de commodité pour pouvoir vivre. Alors là, aujourd'hui, il y a des gamins qui sont à la rue, c'est-à-dire des mômes qui n'ont pas spécialement d'expérience, déjà qui rencontrent un handicap de la langue et qui ont des difficultés quand même à communiquer. Ceci dit, cette incommunication est quand même bien entretenue par l'établissement auquel on fait face aujourd'hui, c'est-à-dire la PAOMI, et aussi la politique mise en place par le département, voire l'État. Un cadre juridique permet la prise en charge inconditionnelle de ces enfants, au même titre que tout enfant en France. La France, n'oublions pas, est quand même émettrice des droits de l'enfant. Et notamment, je pense à ce principe 4 qui souligne justement cette prise en charge et cette considération vis-à-vis de ces gosses. Donc, ici, on intervient à plusieurs titres. Déjà pour revendiquer l'application de la loi, parce que rappelons qu'un citoyen français, lorsqu'il grille un feu rouge, on lui retire sur le champ son permis ou des points. Or là, l'État, en toute impunité, se livre à un déni de justice à l'égard de ces gosses. C'est intolérable, et surtout l'injustice dans toute sa splendeur. Je me rappelle, il y a un mois, puisque ça fait un mois qu'on est là au milieu d'eux, qu'on les assiste, qu'on les aide, qu'on les écoute surtout, parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Mais je me rappelle aussi de ce gamin qui est venu pour la première fois avec des sandales aux pieds. Bon, il faisait juste 2 degrés dehors. Donc le môme, il n'avait pas de souliers et il n'avait surtout pas de vêtements chauds pour combattre le froid. Or ça aussi, c'est une injustice. Une injustice intolérable à tout niveau. Moi, en tant que citoyen, je ne peux pas le tolérer. Je ne vois pas pourquoi l'État le dispenserait. Donc je vous invite à nous soutenir dans cette lutte et à continuer à revendiquer une application de la loi inconditionnelle, c'est-à-dire la prise en charge de ces gamins. Parce qu'aujourd'hui, on crache à la gueule de ces gosses, mais demain, ce sera peut-être ceux qui habitent ici, ceux qui sont résidents d'ici. Or, ces enfants sont issus de pays bien souvent ballottés par une politique internationale absolument démoniaque, puisqu'on assèche ces pays. Or, ces mômes revendiquent un droit à la vie, à l'égard de ceux qui les appauvrissent.
Voilà, donc c'était Bran enregistré le dimanche dernier devant la PAOMI. Et je crois que Bran vient justement de nous rejoindre au téléphone. Allô, Bran ?
Oui.
Oui, bonjour, comment vas-tu ?
Ça va.
Voilà, donc on avait prévu que tu sois dans le studio aujourd'hui, mais tu as eu une urgence, un empêchement, et tu n'as pas pu venir, mais c'est pas grave, puisque avec le téléphone, eh bien, c'est comme si tu étais là.
Eh bien, on grille les kilomètres et puis on grille les distances surtout.
Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, bah, d'une part, pourquoi tu n'as pas pu venir, parce que je crois que ça a été une urgence. Et aussi, donc ça, on en parlait, on est dans le studio avec Violaine Carrère, qui est du GISTI et qui connaît bien la problématique des mineurs isolés étrangers à Paris, et pas que à Paris d'ailleurs.
Bonjour, Watt.
Bonjour.
Et donc, est-ce qu'il y a aussi donc, des associations, des citoyens, des structures, enfin des associations comme le 115 du particulier qu'on n'avait jamais vu intervenir jusqu'à présent dans ce type de combat de problématique. Et dans le petit chose que je viens de passer, là, de ta prise de parole, tu expliques très bien pourquoi, en fait, les gamins, ce sont des SDF, donc vous intervenez auprès des SDF, donc auprès d'eux.
Alors, en fait, oui, ces bombes font partie du paysage du sans-abri. Et nous, on agit, en fait, notre politique, c'est d'assister ou d'aider les plus démunis, et notamment les sans-abri. Essayer de trouver des solutions d'hébergement, mais aussi essayer de faire appliquer cette législation qui, normalement, répond à toute détresse. Notre République est riche en textes et riche en lois, mais la plupart de ces lois sont souvent foulées aux pieds, au nom d'un affairisme ou au nom de quelques organisations qui ne veulent pas se casser la tête avec des populations ou des pans de populations complètement improductives. Le SDF, c'est quelqu'un qui rapporte pas d'oseille, un vieux non plus, un handicapé non plus, et un jeune qui soit avec papier ou sans, c'est exactement la même chose. Mm-hmm. Donc, je crois qu'il est important quand même de crier qu'il existe des lois pour protéger toute détresse. La mise à l'abri, le toit est un droit en France. Il est cadré par deux textes majeurs, c'est L345-2-2 et L345-2-3 du Code social, qui prévoit que les pouvoirs publics prennent en charge les personnes les plus déshéritées.
Ouais. Alors,
bien sûr, on essaye de boucher les trous en les accueillant dans des centres d'hébergement d'urgence, mais les centres d'hébergement d'urgence ne débouchent que très rarement sur des logements, sur quelque chose de plus pérenne. Alors c'est toujours aléatoire, puisque on remet en cause les prises en charge par les centres d'hébergement d'urgence via le 115. Le 115 que l'on connaît, qui est complètement saturé, qui ne répond pas à 90% des demandes. Et aujourd'hui, c'est dramatique, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se retrouvent à la rue et en situation complètement...
Peut-être qu'il faut profiter de cette occasion, Brad, je ne sais pas ce que tu en penses, pour préciser justement que le 115, le SAMU social, n'est justement pas a priori accessible aux mineurs. D'ailleurs, les associations qui s'occupent d'accompagner et d'orienter les mineurs isolés étrangers leur disent que justement, s'ils veulent un hébergement parce qu'ils en ont marre d'être à la rue et qu'ils font appel au 115, il vaut mieux qu'ils disent qu'ils sont majeurs, sinon ils ne seront pas pris en charge. Et parfois, même au faciès, on leur refuse la prise en charge.
C'est le problème, c'est qu'en fait, au vu des évaluations qui sont pratiquées par la PAOI, je parle de ceux que l'on voit ici, on doute de la minorité de quelqu'un tout en supposant qu'il est majeur. En fait, le doute doit être exprimé à l'égard d'une minorité, mais par contre, le soupçon de la majorité, lui, reste franc. C'est-à-dire qu'en fait, il est irrévocable. Mmh. Mais c'est vrai que le 115 ne prend pas de mineur. Mais le môme, dans cette situation d'incertitude, de reconnaissance civile, entre guillemets, ne peut pas bénéficier aussi bien de la minorité que de la majorité. Il reste dans le flou artistique permanent. Il est dans une zone de non-droit.
Tout à fait, ça c'est le...
C'est pour ça qu'on les voit battre le trottoir au froid, dans la faim, dans l'absence d'hygiène, dans l'absence de scolarité, dans l'absence de suivi éducatif. Même si certaines associations se bougent, se mobilisent à l'égard de ces gosses, je veux dire, c'est du bouche-trou, quoi. Je veux dire, c'est un bout de scotch sur des jambes cassées. On essaye de soutenir ces gamins comme on peut, mais c'est pas notre vocation à la base, je veux dire. Et plus on avance dans le temps, et plus on se retrouve devant des mômes qui sont exclus. Alors qu'il y a un pourcentage très important de refus de reconnaissance à la minorité.
Oui, Hélène.
Oui, enfin, moi, je continue dans la suite de ce que disait Yves tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, le fait que ces mômes soient à la rue C'est en effet le symptôme ou la conséquence d'une politique absolument dramatique à la ville de Paris, dans les autres départements de France aussi d'ailleurs, mais enfin, puisqu'on est à Paris, là parlons de Paris, un traitement absolument catastrophique des mineurs isolés, une proportion de jeunes exclus du dispositif auquel, comme tu le dis, normalement, ils devraient avoir accès, une proportion absolument croissante. Et du coup, on se trouve avec des jeunes qui ne sont pas hébergés et des associations qui, d'habitude, œuvrent surtout pour les personnes qui sont sans abri et qui, en effet, ne devraient pas avoir à s'occuper des mineurs, puisque pourquoi est-ce que, par exemple, le 115 n'est pas en charge de l'hébergement des mineurs ? Eh bien, parce que le mineur, normalement, il a droit à autre chose et il a droit à une protection complète et pas juste un hébergement au titre d'articles du Code civil, d'articles du Code de l'action sociale et des familles qui précisent qu'un jeune sans responsable parental, sans tuteur, sans autorité et personne en capacité de lui venir en aide, doit être pris en charge par les services de l'ASE. Et donc, normalement, il ne devrait jamais se retrouver à la rue.
Alors, le truc avec l'ASE aussi, en fait, quand on regarde le cadre juridique de la loi de 2007 confirmée par la circulaire Taubira de 2013, on s'aperçoit que la prise en charge de l'ASE peut intervenir jusqu'à l'âge de 21 ans, à travers les contrats de jeunes majeurs, par exemple. Oui. Mais à condition que ce soit pris antérieurement à 18 ans. Or, la plupart des gosses qui fréquentent, par exemple, la PAOMI, bien souvent, arrivent aux alentours de 17 ans.
Alors ça, c'est une erreur d'interprétation, un abus d'interprétation que font les départements. C'est-à-dire que rien dans les textes qui parlent du contrat jeune majeur ne prévoit que seuls pourront être accueillis comme jeunes majeurs des jeunes qui auront fait l'objet d'une prise en charge préalable avant leur entrée dans la majorité. On pourrait normalement tout à fait arriver à 19 ans en France et prétendre à un contrat jeune majeur dans la mesure où ces dispositifs de contrat jeune majeur, qui ne sont pas de plein droit, hein, mais qui sont des possibilités que les départements peuvent, que les conseils généraux peuvent mettre en œuvre, supposent simplement qu'on se trouve devant un jeune qui n'a personne pour l'accompagner, le protéger et qu'il se trouve démuni et en danger au regard de sa santé, de son intégrité physique, de ses relations affectives. Enfin, voilà, les textes égrènent comme ça toute une catégorie de dangers potentiels. Donc rien n'oblige à ce que le jeune ait été pris en charge avant 18 ans. Après, ce qu'on constate, c'est que des jeunes, même ayant été pris en charge avant 18 ans et ayant éventuellement entrepris un cursus de formation X ou Y, se voient opposer des refus de contrat jeune majeur et doivent se débrouiller seuls pour trouver les ressources pour poursuivre leur formation ou l'interrompre brutalement ou la poursuivre, comme on voit très souvent à Paris, eh bien, en vivant à la rue et en se débrouillant par eux-mêmes pour se nourrir.
Oui, mais il y a un élément là-dedans qui intervient, c'est la majorité. Parce que antérieurement à 18 ans, un enfant n'a pas de titre de séjour à justifier.
Bien sûr, c'est la difficulté qui augmente la précarité de ces jeunes.
Dans la case sans papier, c'est-à-dire dans la case où il faut justifier d'une résidence.
Pas d'une résidence, il faut justifier d'une autorisation de séjour en France.
Une autorisation de séjour. Mais je parle de résidence au sens large. Hmm. Et ce qu'il faut bien comprendre dans l'histoire, c'est qu'en basculant sur la case de 18 ans, de la majorité, le môme n'a aucun recours de quoi que ce soit, sauf de déposer une demande d'asile ou quoi que ce soit, et là, ça reste encore un facteur plus aléatoire que le précédent pour la reconnaissance des minorités.
Ben, il est renvoyé à la case sans papier. Voilà.
Et expulsable.
Et bien entendu. Bien entendu.
Expulsable. Donc, c'est là le jeu du circuit des évaluations, c'est-à-dire de première évaluation, par exemple, avec la PAOMI. Lorsque l'enfant arrive à 17 ans, on le bascule dans une majorité soupçonnée.
Allô ?
Il reste sans possibilité. Allô ?
Oui, on t'entend toujours, oui.
Il reste sans la possibilité de recours, ne serait-ce que déjà pour ouvrir un compte en banque, ne serait-ce que pour exercer une profession, même à travers l'intérim, ou essayer de subvenir à ses besoins par le travail.
Tout à fait. Et non seulement ça, mais comme tu le disais, il se retrouve à ce moment-là dans une situation où il est éventuellement, il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, donc il est en effet expulsable. Et ceci peut s'aggraver, comme on l'a vu par exemple à Lyon récemment pour plusieurs cas de figure. par des condamnations pour avoir usurpé une identité, pour avoir essayé de se faire passer pour mineur alors qu'on ne l'était pas. Et donc, on demande aux jeunes de rembourser éventuellement des prestations qu'ils auraient reçues au titre de l'aide sociale à l'enfance, ou on les condamne simplement pour avoir tenté de le faire.
Ouais. Voilà. Et maintenant, Brad, donc le 115 du particulier. Donc là, d'ailleurs, je viens de dire qu'il y a Jean-Pierre Fournier qui vient de nous rejoindre dans le studio à l'instant. Et donc, bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Oui,
bonjour.
Et donc, vous, le 115 du particulier, vous intervenez d'une façon pas très habituelle pour nous. Hein, c'est-à-dire, est-ce que tu peux nous dire un petit peu le champ dans lequel le 115 du particulier intervient? Et ce que vous faites, c'est...
Alors, le 115 du particulier reste un mouvement citoyen de base qui s'est réveillé en février 2012. En fait, on a été interpellé déjà par le froid, parce qu'il faisait un froid innommable. Mm-hmm. Et devant des températures de moins 10, moins 15, il y avait à l'époque à peu près un peu plus de 2 morts par jour. Saturation du 115, des prises en charge par le SAMU social et tout ça. Et des abris qui étaient pas possibles malgré les déclenchements de plans en froid. Donc on a essayé d'interpeller le public sur la nécessité d'ouvrir sa porte pour pouvoir accueillir un sans-abri. Un élan de générosité qui a reçu un écho fantastique, puisqu'au jour d'aujourd'hui... la communauté du 115 est de l'ordre de 16 000 personnes. Je ne dis pas que 16 000 personnes ouvrent leurs portes à des SDF, mais aujourd'hui, après trois ans de route, on s'aperçoit que 3 500 à 4 000 personnes.
Et donc là, maintenant, le 115, vous intervenez auprès d'enfants, d'enfants, d'ados, et c'est quelque chose qui est, je suppose, assez nouveau. Et qu'est-ce que vous faites auprès de ces jeunes-là en particulier?
Alors, ce que l'on fait auprès de ces jeunes, c'est ce qu'on fait d'habitude dans les maraudes citoyennes, qui reste une carte, qui reste une carte du mouvement citoyen aussi. Des particuliers se sont constitués pour faire des maraudes et détecter la misère dans les rues. Comme je le disais tout à l'heure, les mineurs qui sont à la rue font partie du paysage SDF, malgré tout. Donc on essaye de répondre et d'être là pour eux. Maintenant, le regard que l'on peut porter sur la législation pour comprendre, cette situation, on s'aperçoit que l'origine se prend dans un déni de justice caractérisé, de par un dévoiement de l'État.
La question que je posais, c'était plus, si tu veux, ce que vous faites actuellement, ce qui est vachement intéressant, avec le gymnase et avec les repas, avec le vestiaire, la distribution de vêtements, l'hébergement,
Les mômes dans cette situation traversent les journées sans manger, bien souvent se retrouvent sans hébergement, et on essaye de répondre à ça. C'est-à-dire qu'en fait, on distribue de la bouffe, là on fait une permanence entre 13h et, on va dire, 18h30, 19h, pour essayer de colmater les ventres vides. On essaye de distribuer des vêtements chauds parce qu'on traverse l'hiver quand même, et on essaye de leur donner aussi des couvertures ou des duvets dans le pire des cas, qui va très bien servir pour pioncer dans un coin. Ouais. On essaie de trouver des solutions aussi chez les particuliers et en même temps provoquer à la mairie de Paris à ouvrir d'autres centres et à développer des prises en charge supplémentaires.
Voilà. Ok. Eh bien, merci beaucoup, Bram. Peut-être que tu as quelque chose à ajouter. Sinon, je te laisse. On continue. Allô?
J'ai juste un appel à faire. Si les auditeurs qui veulent nous rencontrer sur place, on est prêt à écouter et à entendre tout le monde, et puis surtout à se faire aider
dans
les démarches, parce que c'est quand même une plage horaire importante.
Ouais.
Et puis parler à tout le monde en même temps, c'est pas possible. Et il y a beaucoup de mômes qui ont vraiment des choses à dire.
Donc pour vous rencontrer, c'est 127 boulevard de Belleville, c'est ça?
On est sous le métro aérien
Boulevard de la Villette.
Pardon, 127 boulevard de la Villette.
Voilà. Hein,
et c'est tous les jours
tous les jours, du lundi au dimanche, face à la Paomi.
Voilà.
Le métro aérien De toute façon, c'est assez repérable parce que peu importe le véhicule qu'on utilise, la population qui est devant ne trompe personne.
Ok, donc on va refaire cet appel maintenant, donc tous les jours, 127 boulevard de la Villette. Et Jean-Pierre, tu allais dire quelque chose ?
Juste métro Jaurès, entre le métro Jaurès et Colonel Fabien.
Voilà. Eh bien, donc peut-être à tout à l'heure ou à demain, et sinon je crois que dimanche prochain à 15h, il va se passer quelque chose de particulier.
Oui, là on a lancé l'idée de faire un goûter festif tous les dimanches.
Ouais.
Et là aussi, c'est histoire de se rencontrer, de que les gens du quartier se mobilisent aussi un petit peu pour ces mômes, et puis de dire un peu à cet établissement auquel on fait face qu'on n'est pas dupes et puis qu'on restera présent quand même pour eux, malgré l'injustice.
Ok. Eh ben, merci beaucoup, Bran. Et puis, donc, on se dit peut-être à demain, sinon certainement à dimanche prochain.
Entendu.
Voilà. Au revoir. Et puis, donc, à dimanche. Merci.
À dimanche. Bonne soirée.
Bonne soirée. Voilà, c'est donc Bran du 115 du particulier qui nous appelait. Et donc, je te voyais réagir, Violaine. Tu as...
J'avais plusieurs choses qui me passaient par la tête en écoutant Bran. Mais c'est vrai, je trouve que ce qui est très intéressant dans cette affaire, c'est que on voit un certain nombre de personnes, de citoyens, d'organisations s'investir dans un sujet pour lequel on se sentait un peu avec une certaine faiblesse de force, quoi, et des dénonciations qui faisaient un peu flop. Donc voilà, il y a plutôt de quoi se réjouir que des gens se mobilisent devant cette situation absolument scandaleuse.